Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des podcasts de Boxe Attitude, nous allons faire le point sur la catégorie des poids moyens. Alors, je vais vous présenter le haut du panier, les meilleurs boxeurs actuels. Il n'y aura pas vraiment de petits nouveaux, de jeunes espoirs, de prospects, comme on les appelle. On va plutôt faire le point sur qui sont les champions, on en est où dans cette catégorie. Et vous avez vu, je vous ai mis en fond d'écran le dernier combat de Golovkin, car il va falloir qu'on en parle de ce fameux Golovkin, parce que j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, c'est le roi est mort, vive le roi. Mais le problème, c'est que le roi n'est pas mort, il n'a pas encore tiré sa révérence. Alors le roi, est-ce qu'il peut encore être sur son trône et demander au prétendant de venir le challenger? Ou alors est-ce que tranquillement, discrètement, il va tirer sa révérence, il va aller mourir dans son coin, et les jeunes lions vont essayer de se battre pour prendre ce trône? Avant de vous parler de ça, les gars, j'aimerais faire un tout petit point sur la dernière vidéo, le dernier interview. Alors, pas interview, j'ai appelé ça libérer la parole, voilà ce premier épisode. Donc, je tiens particulièrement à vous remercier. Je sais que ce ne sont pas des vidéos, des podcasts qui vont faire beaucoup d'audience. Il n'y a pas de problème avec ça, je l'ai compris. Mais l'important, c'est que la communauté, les gens qui suivent la boxe, qui suivent mon travail, répondent présents. Et c'est ce que vous avez fait en fait. Vous avez répondu présent avec notamment les commentaires, l'espace commentaire. J'attendais une certaine forme de critique, un retour de votre part pour savoir qu'est-ce que ça donne ce premier épisode de Libérer la parole. Et il a été bien accueilli. Je pense que vous en attendez un peu la même chose que moi, c'est-à-dire une parole décomplexée. Voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, c'est le ton que j'ai voulu donner, et ça a plutôt bien fonctionné. Merci pour vos retours, je vous ai tous lus, c'est super sympathique de votre part, et je suis prêt à entendre aussi des critiques pour les prochains épisodes. On va essayer de toujours pousser un petit peu plus le concept, tout en gardant cet esprit tranquille, chill, libéré, et mettre à l'aise les invités. Donc j'ai noté un ou deux noms que vous m'avez donné, vous n'avez pas trop fait de propositions, n'hésitez pas à en faire encore en commentaire sous ce podcast présent là, parce que je vais vous lire et comme ça au moins ça pourra me donner des petites idées. Ceci étant dit, alors voilà, j'ai eu des retours positifs, ok, j'ai eu un commentaire très désagréable. J'ai pas vraiment compris pourquoi il y a eu une attaque comme ça ciblée envers mon invité. Surtout que c'est un podcast où vraiment mon invité se remet en question. Il a même des mots durs envers lui-même. Donc j'ai trouvé que c'était complètement inutile de venir et de le tacler. Encore, tu vois, voilà. Je prends toujours le même exemple, ok? Mais c'est l'exemple le plus gros. Tony Oka. Je peux comprendre les critiques par rapport aux déclarations de Tony Oka. C'est complètement normal que ça suscite certains extrêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors là, je me dis, mais en fait, quel intérêt? Donc j'avoue que, lui, je l'ai bloqué. Lui, pour moi, ça n'a rien à faire ici, il n'a rien à foutre là, parce que là, quand il y a vraiment zéro respect, ça dégage. On n'a pas besoin de ça ici, il vient nous parasiter notre énergie, on n'en a pas besoin. Par contre, la critique, je suis ouvert à la critique, je suis ouvert au fait de me dire, est-ce que vous aimez pas les concepts, ma manière de poser les questions, quels invités j'invite, si voilà, vous voulez d'autres invités, il n'y a pas de souci, mais venir tacler sur comme ça gratuitement, je voyais pas trop l'intérêt de laisser ce genre de commentaires négatifs et néfastes. Donc voilà, je vous le dis, c'est rare, hein. Franchement, c'est très rare que je bloque des gens, mais lui, je l'ai bloqué. Bon, si on repassait au poids moyen, mes chers amis, parce que oui, il y a des choses à dire. Gennady Golovkin, commençons par lui, parce que Gennady Golovkin, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Il est numéro 1 BoxRec, il est numéro 1 Ring. Ok, donc c'est le numéro 1. Bien sûr, chez Ring, il n'y a plus de champion Ring. Celui qui est désigné champion Ring, qui a la ceinture Ring, il n'y en a plus. Ce qui est normal. Je veux dire, avec l'activité chez les poids moyens, pour moi, c'est normal que Golovkin ne soit plus le champion Ring, en tout cas, qu'il soit plus. Bon, ça fait un moment qu'il ne l'est plus, mais je veux dire qu'il n'y en ait pas, en tout cas. Et malgré que Golovkin soit numéro 1 BoxRec et numéro 1 Ring, c'est normal qu'il n'ait pas la ceinture Ring. Golovkin, aujourd'hui, il a 41 ans. Clairement, c'est le patron des poids moyens. Moi, j'ose le dire. Là, vous pouvez me tomber dessus, il n'y a aucun problème, vous avez le droit. Pour moi, Golovkin, c'est le plus grand poids moyen. Voilà, c'est tout, point barre. Parle-moi pas de Monzon ou de Hagler. Pour moi, c'est Golovkin. Golovkin Prime, il les aurait fumés. Voilà, c'est mon avis. J'accepte d'entendre quelqu'un qui va me dire « Non, tu te trompes, c'est pas grave. » Enfin, c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Chacun son avis. Et vous savez que j'aime Hagler, j'ai la photo de Hagler en profil sur tous mes médias. Ah tiens, excusez-moi, petite, deux secondes, je prends votre attention, deux secondes, en dehors de cette concentration, ce débat sur les points moyens. En parlant de Hagler et de mes différents médias, sur Instagram, je sais pas pourquoi, j'ai atteint un plafond. Et je me demande si c'est pas à cause du fait que maintenant, ils veulent qu'on paye. Tu vois, les créateurs de contenu, ils veulent nous faire payer. Et j'ai pas envie de payer. Donc, si jamais, parmi les nouveaux abonnés qui me suivent depuis quelques temps, si vous avez Instagram et que vous ne me suivez pas, vous allez dans la description, il y a mon compte Instagram. Ok ? C'est la même photo de profil que mon compte principal Box Attitude, donc c'est la photo de Hagler. Voilà. N'hésitez pas à aller m'ajouter, ça me ferait très plaisir. J'ai envie de savoir si c'est dans ma tête ou c'est juste que voilà, j'ai atteint un plafond, c'est comme ça. Bref, reprenons. Golovkin, pour moi, c'est le patron de la catégorie, il n'y a rien à dire. Golovkin Prime, c'était un nom, un monstre. En 2017, donc petit rappel, hein, en 2017, il a unifié les ceintures WBO, WBA et IBF. Et c'est aussi cette année qu'il va perdre les ceintures contre le champion WBC, Saúl Álvarez. Il redeviendra champion IBF en 2019. En avril 2022, il bat Ryota Murata. Alors pourquoi je cite Ryota Murata en particulier, c'est parce que Ryota Murata s'est retiré depuis. Golovkin détient deux titres à ce moment-là, IBF et WBA. Depuis, il n'a plus combattu chez les moyens. Chez les moyens, d'accord ? C'est en septembre 2022, il va affronter encore Canelo, mais cette fois-ci en super moyen. Et ça, là, ça va faire dans quelques jours, là, ça va faire exactement un an que Golovkin n'est pas remonté sur un ring. Beaucoup pensent que c'était son dernier combat. Que c'est pas officiel, mais beaucoup pensent que c'était son dernier combat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était son dernier combat ou est-ce que Golovkin va revenir ? Maintenant, qui sont les champions ? Qui sont les champions ? Golovkin n'a plus de titre. Qui sont les champions ? Et surtout, qui peut prétendre à être le nouveau Golovkin ? Oui, on n'atteindra jamais le niveau de Golovkin, mais tu vois ce que je veux dire ? Le roi incontesté de la catégorie, qui va être le numéro 1 ? Parce que même si le numéro 1 n'aura peut-être pas le prestige dans les années à venir de Golovkin, ça va être très difficile, mais... Qui va être le nouveau numéro 1 ? Parce que chaque génération a son numéro 1. Et là, de cette génération, il nous faut un nouveau numéro 1. Il nous faut un nouveau boss. Qui ça va être ? Alors, faisons le point un petit peu sur les champions actuels. Zanibek, Alim Kanouli. Alors, Alim Kanouli, il est 7e box-rec, ce qui est assez bas. Je trouve que ce classement est assez injuste. Et il est 2e ring, ce qui est pour moi un peu plus justifié. Voilà, je le mets largement dans le top 5 de la catégorie. Il a 30 ans. Il est l'actuel champion WBO. Un titre qu'il a récupéré il y a peu de temps, hein, je crois que c'était en 2022. Et son dernier combat, c'était en mai 2023, assez récemment, contre Steven Butler. Je vous invite à aller voir ce combat si vous ne l'avez pas vu. C'est très court. Et il surclasse son adversaire et il lui met un très beau KO. Je trouve que ce KO, c'était important. Alors, là, j'ai pas vraiment écrit. C'est un peu des choses qui me viennent en tête comme ça. C'était important parce que on aurait pu commencer à lui mettre l'étiquette de technicien qui finit pas ses adversaires. On va rentrer dans les combattants qu'on va trouver un petit peu chiant à regarder parce que trop technique, tu vois. Il était en train doucement de rentrer dans cette case-là, qui est pour moi une étiquette qui n'est pas une étiquette honteuse à porter. Hein. Moi, j'aime bien les techniciens, mais c'est vrai que doucement, on pouvait se dire « Ouais, c'est pas un combattant spectaculaire ». Et puis là, il fait un très beau KO contre Steven Butler, même si c'est vrai... que c'est un KO amené parce que c'est un pur technicien, pas parce que c'est un pur puncher. Il y a une nuance entre les deux, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est vraiment, techniquement, c'est irréprochable le contre qu'il exécute et l'uppercut qu'il fait rentrer. Et c'est pas non plus un KO pur puncher, tu vois, ou pur destructeur. Donc, Zanibek, Alim Kanouli, ne vous y trompez pas, pour moi, c'est un grand technicien. Principalement, c'est un technicien. Alors, maintenant, on va passer au deuxième combattant dont j'aimerais vous parler, parce qu'il y a un lien. Le deuxième combattant dont je voudrais vous parler, qui est lui aussi champion, c'est Vincenzo Gualtieri. Il est 8e box-rec, et il n'est pas classé ring. Il a 30 ans. Alors, c'est un Allemand, il me semble. Zanibek, il est kazakh. Je vous donne la nationalité parce que ça va être marrant d'en parler. Vincenzo, lui, alors il vient de remporter le titre IBF lors de son dernier combat qui était en juillet 2023. Je crois que c'est à ce moment-là, ou alors il avait déjà le titre, je sais plus. Non, je crois que c'est à ce moment-là qu'il récupère le titre IBF. Et il a battu un Brésilien, Iscava Falcao. Le combat est en ligne, il est sur YouTube, vous pouvez le trouver. N'hésitez pas à aller voir, hein, je vous mettrai tous les noms des combattants en description de la vidéo. Donc vous avez juste après à les copier-coller et cliquer sur YouTube pour voir les combats. Voilà, je vous ai pré-mâché le travail quand même. Donc allez voir ça. Il est intéressant comme combattant, et si je vous en parle aujourd'hui, bah, c'est déjà parce qu'il détient un titre, hein, d'accord? Il est champion dans la catégorie des poids moyens. Bon, je pense que très peu de personnes ont vu un combat de lui et même ne connaissent qui est ce mec. Et ce qui est intéressant, c'est que le 14 octobre, il va affronter Jenny Beck, Alim Kanouli. Ils vont s'affronter pour l'unification donc des titres WBO et IBF. Alors, première idée, je me suis dit, bon, ceinture cadeau pour Jenny Beck. Voilà, c'était la première chose qui m'est venue en tête. Et je suis allé quand même voir le combat, qui est assez intéressant. Et ça risque d'être un combat plutôt joli à regarder. Alors, je pense quand même que Gianni Beck est largement favori. Mais attention, Gualtieri, il est assez solide. Il est assez dur dans sa boxe. Tu vois, il est varié dans ses combinaisons. Et puis, c'est un mec qui va au charbon, tu vois, qui n'hésite pas à aller, qui veut faire mal. Voilà, c'est franchement, il y a de l'engagement dans ses combats. Voilà, il y a de l'engagement. Et ça ne m'étonnerait pas que sa boxe embête un petit peu Alim Kanouli, parce que c'est le genre de boxeurs qui sont ils sont assez imprévisibles, ils sont difficiles à lire, tu vois, ils ont un style qui est assez difficile à lire, et puis ils donnent des coups, tu vois, vraiment, tu vois, c'est un mec qui envoie, il envoie des longues séries, et une fois qu'il a essayé de toucher, tu vois, il va vraiment insister pour essayer de continuer à se faire mal. Après, c'est pas un gros puncher, ça c'est un truc, c'est pas un gros puncher, mais ça risque d'être une opposition de style qui peut donner un affrontement assez joli. Pas un grand combat, je m'attends pas à un grand combat, mais ça peut donner une opposition de style assez jolie. Et je pense que pour Alim Kanouli, le Kazakh, il a besoin de ce genre d'affrontement pour donner envie de suivre sa carrière. Voilà. Il lui faut un peu ce genre d'adversaire où ça va amener un petit peu du piment sur le ring. Donc, je vous invite à vous intéresser à ce combat-là qui arrivera le 14 octobre. Ensuite, on a Erislandy Lara. Alors, lui, il est déclassé par Boxrec, parce que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas combattu. Son dernier combat était en mai 2022. Et il est encore quatrième chez Ring. Donc, très, très bien classé chez Ring Magazine. Il a aujourd'hui 40 ans. Il est l'actuel champion WBA World. Et son dernier combat, c'était, donc, je vous disais, en mai 2022, contre Gary O'Sullivan. Alors, Lara, j'ai pas vu ce combat contre Gary O'Sullivan. J'ai regardé pas mal de combats aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps non plus de tout mater. J'ai pas vu ce combat, il faudrait que j'aille le regarder quand même. J'avoue que je crois que je me le suis mis genre il y a quelques mois. Et tu vois, je le regardais pas vraiment. J'étais en mode en train de faire deux trucs à côté, je le regardais pas vraiment. Mais il faut que je me le mate tranquillement, que je me pose et que je le regarde. Erislandy Lara, il y a encore quelques années, il faisait partie de mes combattants favoris. Très clairement. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout sa carrière et j'ai un peu l'impression, c'est mon sentiment, que il est un peu protégé du côté de la WBA et il a ce titre. Et d'ailleurs, à un certain moment, quand Soro avait une super phase, j'ai un peu l'impression qu'on a évité de faire Lara Soro alors que ça aurait été une très belle opposition et surtout que je pense qu'à ce moment-là, Soro avait toutes ses chances. Bref, ça c'était encore une autre époque. Maintenant, Lara, il est champion dans la catégorie des poids moyens, donc il est parti dans une autre catégorie. Et il détient un titre. Alors, c'est le titre World, attention, hein, c'est le titre que détenait Daniel Dubois avant d'affronter Usyk. Alors d'ailleurs, je ne sais pas s'il est destitué de son titre quand on a une chance pour le titre supérieur dans la WBA. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je pense que normalement, tu es destitué de ton titre, ce qui serait logique. Donc c'est pour vous dire que personne ne considérait Daniel Dubois comme un champion du monde avant qu'il affronte Usyk. Et même après d'ailleurs, parce qu'il a perdu. Donc voilà, sauf pour certains qui pensent qu'il a gagné après le coup bas. Ah, c'est bon, on va pas relancer le débat maintenant, hein, ça suffit. Donc, Erislandy Lara, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense pas grand-chose. J'aimerais peut-être qu'il fasse genre 2-3 derniers combats et puis s'en va. Parce que je m'intéresse plus à sa carrière, très sincèrement. Même si, j'avoue que si demain il y a une belle affiche, voilà, qui prend un combattant, un de ces combattants qu'on cite aujourd'hui, je regarderai. Voilà, je regarderai. Mais c'est vrai qu'hormis ça, je m'intéresse plus trop à la carrière de Lara et je pense qu'il vit ses dernières années, ses derniers combats et que je pense pas qu'on aurait encore des grands combats de lui. J'attends plus rien de lui, d'Erislandy Lara à 40 ans. Maintenant, passons à Jermall Charlo. Jermall Charlo, qui est lui déclassé par Boxrec et par Ring. Voilà. Ouais, je crois que par Ring aussi, hein. Je crois qu'il est présent dans aucun des deux. Il a 33 ans et il est l'actuel champion de WBC. Son dernier combat était en juin 2021 contre Juan Macias Montiel. Depuis, plus rien. Le mec a complètement disparu des radars jusqu'à qu'il se prenne une tarte dans la gueule par Caleb Plant. Voilà, c'est la dernière actuelle, c'est le dernier affrontement physique qu'on a vu de lui. Bon, je dis ça avec un petit peu de sarcasme, c'est vrai, mais j'ai des boules, parce que moi, c'était un de mes combattants chouchous. Voilà, il y a encore quelques années, Jermall Charlo, j'ai pas honte de le dire, était un de mes combattants chouchous. Et le mec ne boxe plus, donc depuis juin 2021, excusez-moi, mais moi, je suis passé à autre chose. Hein. Il y a d'autres combattants que je suis, il y a d'autres combattants qui sont actifs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, Jermall Charlo, va-t-il revenir? Va-t-il défendre sa ceinture? Sa ceinture va-t-elle être destituée et être mise vacante lors d'un combat? J'en sais rien du tout. C'est une énigme, et franchement, c'est pas aujourd'hui que je vais vous faire une annonce, les gars, parce qu'il n'y a toujours rien. Donc, inconnu, on sait pas. Voilà, disparu. Jermall Charlo est porté disparu. Voilà, tout ce qu'on va dire. Donc voilà la présentation des champions actuels. Maintenant, passons à nos meilleurs challengers. Voilà, les mecs qui sont classés le plus haut. On va commencer tout de suite avec Chris Eubank Jr., qui, il y a quelques temps, avait été classé numéro 1 dans la catégorie des poids moyens. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Après, ils ont remis Golovkin. Bon, un peu étrange. Tu sais, BoxRec, des fois, ils sont un peu chelous. À un moment donné, Chris Eubank Jr. était le numéro 1 dans la catégorie des poids moyens. Aujourd'hui, il est deuxième BoxRec et il est sixième ring. Donc, très bien classé actuellement. Il a 33 ans. Et son dernier combat, c'était en septembre 2023. Donc là, il y a quelques jours. Et c'était contre Liam Smith, qui est lui classé 3e BoxRec et 10e G-Ring. Et Liam Smith, il a 35 ans. Bon, qu'est-ce que je peux dire de ces deux-là? Est-ce que Chris Eubank Jr., après avoir gagné sa revanche contre Liam Smith, il va avoir une chance pour un titre mondial? J'y crois pas trop. Petit plaisir perso, un Chris Eubank Jr. contre Eris Landilara ou Jermall Charlo, je prends. C'est-à-dire que t'as un boxeur qui était parmi mes boxeurs favoris en 2015-2016, Lara, Charlo qui était un de mes boxeurs chouchou il y a encore 3 ans, contre mon petit Chris Eubank Jr., tu connais mon affection pour ce mec. Oui, je prends, tu mets une affiche comme ça, c'est un plaisir perso. Mais en vrai, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est intéressant? Je crois pas trop. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Je pense pas. Tu vois, très sincèrement, je pense pas. Donc, eux deux, on va les mettre de côté. Et on va maintenant parler des autres combattants qui pourraient être intéressants. J'ai encore deux noms à vous donner. Carlos Adams. Alors lui, je me suis penché dessus aujourd'hui, et c'est vrai que, j'ai eu, alors peut-être pas le coup de cœur, mais il m'a charmé le garçon, il m'a charmé. Donc il est 5e BoxRec, il est 3e chez Ring, il a 29 ans, c'est un Dominicain, donc voilà, un boxeur Dominicain, et son dernier combat était en juin 2023 contre Julian Williams. Jonel Williams, qui est un boxeur très courageux. Je viens de dire un petit mot parce que je me suis enchaîné parce que j'avais en recommandation son combat contre Sergei Derevianchenko, de Carlos Adams, bien sûr. Et donc, je vais dire un petit mot sur ça aussi. Donc, je me suis regardé le combat, super sympa, vraiment allez voir ça. Alors, le combat de Carlos Adams contre Julian Williams, il est sur YouTube. D'ailleurs, le combat de Chris Eubank Jr. contre Liam Smith, il est aussi sur YouTube, sur la chaîne de Sky Sport Boxing. Par contre, les enflures, avant, ils nous laissaient les combats. Maintenant, c'est que pour les Anglais. Donc, si t'as un petit VPN, il y a moyen que t'arrives à avoir le combat. Alors, c'est toujours mieux d'aller sur la chaîne officielle parce que voilà, tu l'as en bonne qualité et puis ça montre qu'on regarde les combats des combattants. Donc, moi, j'aime bien toujours, tu vois, quand je peux passer par le truc légal, que je l'ai payé ou que je l'ai, je passe par ça parce que j'aime bien montrer à la plateforme, tu vois, par exemple la plateforme de streaming ou la chaîne YouTube, que on s'intéresse en fait à ces combats. Parce que si je me dis, si tu le regardes sur un truc piraté, parfois il n'y a pas le choix, les gars, hein, c'est comme ça, parfois il faut pirater. Ok, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a tellement de choses, on n'a pas les moyens de tout payer, je peux comprendre. Mais quand tu peux le faire, moi, je vous invite à passer par le truc légal. Donc voilà, quand les combats sont en ligne sur les chaînes des diffuseurs, donc là, c'était Sky Sport Boxing, allez-y, parce que ça montre, en fait, l'intérêt pour le combat. Ça leur fait monter leurs chiffres, et je trouve que c'est bien pour les combattants. C'est important pour les combattants. Voilà, c'était ma petite astuce, voilà, que je vous dis, mon petit soutien. Voilà, c'était mon petit soutien pour les boxeurs. Donc, Carlos Adams, il y a ce combat contre Derevianchenko que je vous invite vraiment à voir. Alors, même contre Julian Williams, il est pas mal. Moi, j'ai eu du mal à même le reconnaître entre les deux combats. Son physique est différent, même sa boxe est différente. Donc, je pense que c'est un boxeur qui s'adapte pas mal à l'adversaire qu'il a en face. Contre Derevianchenko, c'est un combat un petit peu plus palpitant, un petit peu plus intéressant. Enfin, intéressant. Les deux sont intéressants, mais un peu plus spectaculaire, l'opposition de Derevianchenko. Et du coup, je voulais dire un petit mot sur Derevianchenko, qui a 37 ans. Alors, il est classé dans le top 10 ring chez les poids moyens, et dans le top 10 BoxRec chez les poids super moyens, parce que son dernier combat contre Jem Munguia, qu'il faut absolument que je revoie, parce que je ne l'ai pas vu dans les meilleures conditions. Je l'avais vu à l'aéroport quand je partais à New York pour le stage de boxe Boxing Culture. Donc, j'ai pas pu le voir dans les meilleures conditions, mais j'avais kiffé et j'ai envie de le revoir. Parce que j'en discutais encore avec mon père, et mon père il me disait que lui, pour lui, c'était peut-être un vol, tu vois. Et quand j'étais à New York, parce que j'étais dans la salle de Derevyanchenko, là-bas, eux, ils ont tous dit non, Derevyanchenko, il a gagné. Et je trouve intéressant, Derevyanchenko, tu vois, par exemple, c'est un mec, je me dis, c'est fou comment sa carrière, elle s'est pas jouée à grand-chose. Parce que, regarde, il tape Jacobs, mais sa vie, elle change. Daniel Jacobs, il le bat. D'ailleurs, pareil, mon père, pour ce combat-là, il voyait Derevyanchenko gagner. Moi, bon. Après, moi, je suis un peu pro Daniel Jacobs. Est-ce que je suis parti pris? Je sais pas. Mais pour moi, quand même, je pensais que c'était mérité, sa victoire. Mais, par exemple, Derevyanchenko, quand il affronte Golovkin, moi, je vois Derevyanchenko gagner ce combat. Tu vois? Et alors que pourtant, je suis un gros, gros pro Golovkin. Golovkin, pour moi, putain, c'est la grande classe. Mais j'avoue que Derevyanchenko Golovkin, j'ai serré un peu les fesses, tu vois, parce que je me dis, Derevyanchenko, il aurait pu avoir. Donc, tu vois, combat très serré. Quand il affronte, bon, Jermall Charlo, pour moi, Jermall Charlo gagne nettement, mais voilà, il affronte Jermall Charlo pour un titre mondial aussi. Golovkin, c'est pour un titre mondial. Charlo, c'était pour un titre mondial, il va au point. Et c'était Charlo, franchement, costaud à ce moment-là. Il affronte Jermall Munguia. Voilà, et pareil, il y en a qui disent qu'il a gagné. Donc, à chaque fois, lui, punaise, ça joue à pas grand-chose. Et c'est un peu dur parce que, tu vois, c'est le genre de mec. Bon, dans quelques années, on l'aura oublié. Et alors, sauf s'il fait une dinguerie, je veux dire, à 37 ans, imaginons qu'il ait une nouvelle chance mondiale et qu'il gagne. Je veux dire, la catégorie, elle est ouverte aujourd'hui. Je sais pas, tu le mets contre Lara, et je suis pas sûr que Lara y passe. Tu mets un match retour contre Charlo, je demande à voir, tu vois. Tu le mets même contre Gianni Beck. Bon, Gianni Beck, techniquement, c'est quand même très très dur à déjouer, mais voilà. Je veux dire. Derevyanchenko, tu le mets contre Gualtieri là, tu vois. Bon, Gualtieri, du coup, il va avoir le combat d'unification contre Alim Kanouli, donc Gianni Beck. Mais, Derevyanchenko, Gualtieri là, moi je dis qu'il le tape, tu vois. Bref, donc tu vois, c'est un truc, je me dis, ah, lui, quand tu rates sa carrière, tu te dis, il est passé à rien. Il est passé à rien du tout, tu vois, d'enfin avoir son nom inscrit dans les petites pages de cette catégorie des poids moyens. Mais attention, les poids moyens, c'est une catégorie monstrueuse, hein. Franchement, tu vois, quand je préparais la vidéo, je me dis, c'est dommage que c'est une catégorie oubliée, parce que voilà, ça faisait partie des meilleures catégories il y a encore quelques temps, hein. Mais oh, les poids moyens, le niveau, il est solide, hein. Franchement, se faire un nom dans cette caté, c'est. Oh, il faut être bien, bien accroché, hein. Bon, je vais finir avec le dernier nom. Voilà, parmi les meilleurs challengers, n'hésitez pas à donner des noms. Bien sûr, j'ai pas pu parler de tout. Il fallait que je fasse une sélection parce que ça demande du temps aussi d'aller regarder les combats des mecs, regarder ce qu'ils ont fait, prendre des petites notes. Voilà. Là, j'ai passé vraiment ma journée à préparer cette vidéo et ça fait quelques temps que j'y réfléchis. Voilà, mais n'hésitez pas à donner des noms dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Donc, je finirai avec Merim Nursultanov et qui est lui aussi kazakh entre Golovkin. Alim Kanouli et Nursultanov, ça commence à faire du monde dans le top 10. Donc lui, il est quatrième Boxrec, très bien classé, et septième chez Ring. Il a 30 ans, et son dernier combat, c'était en avril 2023 contre le japonais Kazuto Takesako. Le combat est disponible sur YouTube aussi. Allez le voir. Alors, allez le voir. Oui, si, vous pouvez le voir, c'est pas mal. Mais moi, je suis un peu resté sur ma faim avec Nursultanov. Je suis un peu resté sur ma faim parce que il est bon boxeur, il n'y a rien à dire. Mais je trouve que, en fait, dans le combat, il y a des moments où tu dis, ah ouais, là, franchement, ce qu'il a fait. Et puis le reste du combat, la grande majorité, c'est moyen. Alors, moyen pour un top 10, hein, je m'entends. Ce mec-là, il me fait la misère, tu vois. Si jamais, tu vois, je veux dire, n'importe quel mec, il lui fait la misère. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moyen dans le sens où je trouve que on dirait que il a du potentiel, mais il n'arrive pas encore à passer ce step, tu vois. Et bon, alors, il gagne par KO, super KO. Et là, tu te dis, ah ouais, là, quand il l'a éteint, le mec, bon, le japonais, il est KO debout. Et après, il fait l'accélération, il l'éteint. Mais je sais pas, je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. Je reste sur ma faim. Je sais pas quoi vous dire de plus que j'étais un peu bon. Oui, il est bon, mais il lui manque quelque chose. Mais en même temps, il lui manque pas vraiment quelque chose parce que je sens qu'il a ce quelque chose. Il lui manque un petit révélateur. Donc peut-être un combat qui le fera passer dans un niveau supérieur. Peut-être qu'il fera pas mieux que ça. Hein. Peut-être que c'est le genre de boxeur qui a des moments dans un combat, mais qui peut pas faire plus. C'est possible aussi. Hein. Parce que rester focus tout le combat, faire un combat excellent où vraiment t'es dedans du début jusqu'à la fin. Et ça c'est l'élite. Voilà. Enfin, peut-être pas l'élite, mais c'est le top du top, tu vois. Le gratin, c'est ça. C'est-à-dire que du premier au dernier round, mec, si tu veux trouver une faille, c'est difficile. Voilà, donc parmi tous ces noms, moi j'avouerais qu'aujourd'hui, celui pour qui j'ai une petite préférence, eh ben c'est Carlos Adams. Carlos Adams, même si je demande à avoir un peu plus, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a encore le niveau d'un champion? Je sais pas. Je sais pas. Vu que la catégorie est ouverte, qu'il y a moyen, je dirais oui. Aujourd'hui, je dirais oui. Mais parce qu'on est dans une situation particulière, tu vois, c'est un peu le chaos chez les poids moyens. C'est un peu le bordel, c'est un peu la crise en se disant, mais bon, qui gouverne ce pays-là? Qui est le chef ici? On ne comprend pas. Et tu vois, tous les sous-chefs, ils sont en train de se chamailler. Mais c'est moi le chef, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois la catégorie. Voilà les gars, je ne me suis pas trop intéressé aux prospects de la catégorie. Les petits nouveaux et tout, parce que c'est vrai que c'est une catégorie depuis quelques années, je m'y intéresse plus trop. Voilà, même si ben, y a des noms que j'aime bien, voilà, bien sûr, hein, y a des noms que j'aime bien et tout, y a pas de souci, mais je m'y intéresse plus trop. Aujourd'hui, par exemple, la catégorie que je vais plutôt suivre, ça va être les poids plumes, même si c'est pas une catégorie médiatisée, parce qu'il y a plein de catégories que je suis mais qui sont pas médiatisées, je m'en fous de ça. Mais les poids plumes, ils me font kiffer, et puis chaque champion, j'ai envie de le suivre. Là, je t'avoue que Jermall Charlo et Ruslandi Lara. Ouais, j'ai pas vraiment envie de suivre leur prochain combat, tu vois. Même si je serais intrigué, parce que quand ils vont revenir, ça va être quelque chose. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Enfin, Lara, il a pas boxé depuis mai 2022, et l'autre depuis juin 2021. C'est abusé, les gars. Bon, voilà, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce petit podcast, si ça vous a plu, est-ce que ça vous intéresse, les poids moyens, ou est-ce que vous en foutez? Ça se trouve, il y aura que 500 personnes qui vont écouter ce podcast. Sur ce, les gars, ben, écoutez... Moi, j'ai quand même le sentiment, allez, je vais finir avec ça, que tu mets n'importe quel de ces mecs contre Golovkin, il le tape encore. Alors, est-ce que je suis faussé parce que mon cœur bat fort pour Golovkin? Mais j'ai quand même le sentiment... Alors, peut-être, allez, peut-être Gianni Beck, ça passerait pas. Parce qu'il va être chiant, il va rester à distance, il va le boxer, il va pas aller dans le jeu de Golovkin, ok. Mais les autres... Moi, tu me dis Golovkin-Lara, Golovkin-Charlo. Moi, je dis peut-être qu'il les tape encore. Et même les petits, les nouveaux, là, même les meilleurs challengers. Moi, je dis que... Allez, pour mon petit kiff, tu mets un Golovkin-Hugbank. Histoire que ça y est, tu vois, Hugbank, il est sa chance mondiale chez les poids moyens. Mais moi, je dis Golovkin, il bat Hugbank. Hein. Voilà. Je pense qu'il le bat. Mais même, ça s'arrêterait avant la limite. Et sans... Rien à dire, tu vois, rien à dire. Peut-être pas masterclass, parce que Golovkin, il se fait vieux quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi. Voilà. Bref, les gars, sur ce, j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine. Alors, le programme des prochaines vidéos. Demain, on est en live pour parler de Christian Billy. En live sur Box Attitude à 22h. Ou peut-être un petit peu avant, je verrai. Je vais me décider dans la soirée à quelle heure je lance le live. Enfin, non, demain, dans la journée, je me déciderai à quelle heure je lance le live. Ensuite, mercredi... Je lance une vidéo sur Hippo Attitude. Donc ça, je parle de manga sur cette chaîne et du manga Hippo. Pour l'instant, je parle que de ce manga-là. Peut-être qu'un jour, je vais m'ouvrir à d'autres mangas, mais pour le moment, je parle que de ce manga-là. Et voilà, c'est tout. Voilà, pour l'instant, c'est les infos que vous avez. Et puis peut-être que je referai une petite vidéo sur Furin Ganou, parce que tu connais le buzz, tout ça. C'est un truc de malade. Les audiences que je fais... quand je fais des vidéos sur eux, c'est fou. Après, je vais pas en faire parce que ça fait du chiffre. J'en fais parce que c'est intéressant d'en parler. Là, j'avais fait une première vidéo qui a passé les 70 000 vues. C'est énorme pour ma chaîne YouTube. Et en fait, les commentaires étaient intéressants pour faire une suite. Mais là, je vais pas me forcer à faire une suite. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai fait une vidéo, je revenais sur les commentaires. Elle a fait 20 000 vues. J'ai vu là tout à l'heure 20 000 vues, c'est énorme aussi. Voilà, c'est pas parce que ça fait des vues que je vais forcément en faire une autre. C'est toujours... Si j'ai envie d'en parler, je fais une vidéo. S'il se passe un truc, je me dis, ah, vas-y, ça peut faire une bonne vidéo, je fais une vidéo. Mais je vais pas en faire parce que ça fait du buzz. Non, c'est pas intéressant. Puis après, on va perdre les gens, ça va créer plus de mauvais commentaires et ça serait justifié. Il n'y a pas d'intérêt. Sauf si, moi, je vois un intérêt. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!